VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, rentré dans son pays la semaine dernière après 2 mois d'absence, a officiellement repris ses fonctions à la tête de l'État ce lundi, selon son conseiller spécial en communication, Femi Adesina. Le président Buhari a officiellement transmis aujourd'hui des lettres au Sénat et à la Chambre des représentants, confirmant qu'il reprenait la direction du pays. A souligné Femi Adesina en précisant que le chef de l'État recevra un briefing du vice-président Yemi Osinbajo, qui a assuré l'intérim à la tête du pays depuis le 19 janvier. Muhammadu Buhari est rentré vendredi dernier de Londres après une absence prolongée pour des problèmes de santé qui n'ont pas été rendus publics. Situation qui a suscité de vives inquiétudes au Nigeria où de nombreuses rumeurs ont circulé sur son sort. Certains le disant même mort ou très gravement malade. Des interrogations qui persistent vu que le président Buhari a déclaré avoir besoin d'un suivi médical dans les prochaines semaines. Laissant donc entendre qu'il pourrait repartir en Angleterre se faire soigner. Journée du souvenir en Côte d'Ivoire. Il y a un an, la ville balnéaire de Grand Bassam, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, était la cible d'un commando de djihadistes. Bilan de l'attaque, 19 morts et une trentaine de blessés. Au programme ce lundi, une cérémonie d'hommage aux victimes à Grand Bassam en présence du vice-président Daniel Kablan Duncan, qui a personnellement déposé une gerbe de fleurs sur les lieux du drame. Mais les hommages ont commencé en fait dès samedi avec un concert des artistes baptisé Gala de la Vie. Et la minute de silence à 12h45 aujourd'hui, heure à laquelle les djihadistes ont ouvert le feu le dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam. Un an, jour pour jour après le drame en ce 13 mars 2017, la vie continue. Comment se portent les activités touristiques et hôtelières dans la ville balnéaire? Georges Ibrahim Tounkara s'est rendu sur place.
Jusqu'à 13h, moi j'étais arrêté là lorsque le monsieur abattait les gens qui étaient ici. On avait peur, on ne comprenait pas. Les gens s'étaient affolés, ça courait dans tous les sens, ils tombent, ils se relèvent. C'était le diable même que les gens voyaient.
Samuel est employé dans l'un des hôtels pris pour cible par le commando qui a frappé Grand Bassam ce dimanche 13 mars 2016. 3 Français ont perdu la vie ici et le souvenir de cette triste journée est encore vivace dans son esprit. Conséquence immédiate de ce drame, la chute drastique du taux de fréquentation de l'hôtel.
Je connais plein de moi, je travaille là, c'est moi qui viens ici, mais moi je connais plein de qui ne sont plus jamais revenus. Ceux qui étaient là, je ne les ai plus jamais revus.
À l'Étoile du Sud, où un homme a été tué par les terroristes, le taux d'occupation, qui était de 80%, est tombé jusqu'à 3% pendant les 6 mois qui ont suivi cette attaque. Aujourd'hui, l'hôtel respire un peu mieux. Le taux de fréquentation tourne autour de 30%. Le gérant, Jacques Ablé, déplore la psychose toujours présente au sein de la population, en dépit de l'affluence sur la plage.
Effectivement, les plages sont bondées, mais les hôtels ne sont pas pleins. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la plage, ils passent la journée, ils rentrent le soir. Mais les hôtels ne sont toujours pas fréquentés.
Comment vous expliquez cette situation?
Dû au fait que l'absolu est toujours là, les gens se disent que si ils viennent, qu'ils restent à l'hôtel, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, ils ont tort. Les hôtels sont sécurisés, il faut qu'ils viennent.
Il faut qu'ils viennent. L'appel de Jacques Ablé a trouvé un écho favorable chez certains expatriés comme Marc Diego, ce sexagénaire français.
Mais moi, ça fait 6 ans que je viens et moi, j'adore venir ici à Bassam. Je me sens bien, les gens sont gentils. Moi, quand je viens ici, je reste 4, 5, 6 mois, ça dépend.
Oui, est un opérateur économique chinois. Pour lui, les mesures de sécurité ont été renforcées et il n'y a plus de raison de ne pas venir à Grand Bassam.
Et on l'a quitté à Abidjan pour venir ensemble ici. Je pense ici, il y a toute la sécurité. Maintenant, je le pape un peu les choses. Voilà, j'ai vu, il y a les gens venir passer ici, il y a le plus. Et puis, le hôtel ici, il y a la sécurité, c'est bien.
Les semaines qui ont suivi l'attaque, le gouvernement ivoirien avait octroyé une manne financière de 200 millions de francs CFA aux victimes, les hôteliers y compris. Une goutte d'eau dans la mer, selon certains. Christian Ntakwe est le gérant du restaurant Le Canan Beach.
Nous avons besoin d'un coup de pouce de l'État, c'est-à-dire, même si ce sont des prêts, que l'État nous aide un peu, pour que tout le monde puisse quand même payer ses impôts et tout.
Un an après cette attaque terroriste, la reprise reste toujours timide dans le secteur touristique et hôtelier de Grand Bassam. Les commémorations prévues ce lundi seront sans doute une nouvelle occasion pour les professionnels du secteur de solliciter de l'État un plus grand soutien. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, préparation de la conférence d'entente nationale, une disposition de l'accord de paix visant à ramener la concorde dans le pays. Le comité préparatoire a déjà commencé ses consultations régionales et aussi dans les camps de réfugiés. Dans l'attente de la tenue de cette réunion, les médias sont partagés sur l'opportunité des thèmes à débattre. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a tendu son micro à des confrères maliens.
Je suis M. Hakimi Mega, directeur de publication du journal La Nouvelle République au Mali. J'ai des appréhensions par rapport au concept Azawadi, parce que les gens voient que cette conférence n'est pas souveraine. Mais moi, ce que je vois à l'affût, dès qu'on accepte ce concept Azawadi, les lobbies, ces gens-là qui revendiquent la partition de notre pays, vont se mettre en branle et nous verrons. Ça peut ne pas être pour aujourd'hui, mais nous verrons un jour qu'on aura un semblant de répartition de notre pays.
Moi, c'est Alpha Maman Tissé du journal L'Indicateur du Renouveau. Je me pose des questions dans la mesure où les concertations locales n'ont pas pu se tenir dans la ville problématique de Kidal, dans les camps des réfugiés. À Kidal, il se pose des problèmes que ceux qui sont chargés de mener les concertations au niveau local ne peuvent pas aller parce que la sécurité n'est pas garantie. Dans les camps des réfugiés, il y a des problèmes, notamment le fait que les réfugiés ils ont un statut particulier. Si toutes les conditions sont réunies, moi je pense que la conférence pourrait être un déclic pour l'amorce ou la fin de la crise dans le Nord.
Des confrères maliens au micro de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Afrique de l'Ouest toujours, le militaire guinéen Boubacar Sidi Diakité, dit Tumba Diakité, arrêté en décembre au Sénégal et recherché pour le massacre d'opposants en 2009 à Conakry, en Guinée, a été extradé dimanche soir vers son pays natal. Les détails avec Claire Morin-Gibour.
Des sources à Conakry ont confirmé à l'AFP l'arrivée de Tumba Diakité peu avant 19h30, temps universel dimanche soir. Le prévenu a été récupéré à sa descente d'avion, juste au bas de la passerelle, par une équipe de la gendarmerie, de la police et de militaires, escorté sous haute surveillance, probablement vers la maison centrale de Conakry, a indiqué une source aéroportuaire. On l'accuse, entre autres, d'avoir été impliqué dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, où se tenait une manifestation contre la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara, dont il était un aide de camp. L'ONU avait sorti un bilan d'au moins 157 morts et 109 femmes violées. Les autorités sénégalaises, mettant à exécution un mandat d'arrêt international, ont arrêté Tumba Diakité le 16 décembre dernier à Dakar. La justice a approuvé son extradition en janvier, mais son avocat sénégalais, Baba Diop, a dit à l'AFP qu'il s'agissait plutôt d'une expulsion, un recours ayant été formulé contre la mesure d'extradition.
Burkina Faso, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a été élu dimanche à la tête du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti du chef de l'État, Roch Marc Christian Kabore. M. Diallo était l'unique candidat à la présidence du groupe, poste dont il assurait l'intérim depuis l'élection en janvier 2016 du chef de l'État à la tête du pays. Avant le congrès, on avait parlé de dissension au sein du parti présidentiel. Il n'en est plus question, si l'on en croit le leader du MPP, Salifou Diallo.
Le résultat auquel nous sommes parvenus constitue une victoire d'étape pour le MPP. Les camarades ont fait part de leur ferme détermination à conduire le changement à travers l'application effective du programme de son Excellence Roch Marc Christian Kabore, président du FASO. La volonté de rupture de nos militants a été également partagée par l'ensemble des partis de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Les congressistes ont été nombreux à considérer l'opérationnalisation et la matérialisation du PNDS comme des éléments centraux pour l'instauration d'une nouvelle ère de progrès et de démocratie dans notre pays.
Salifou Diallo, président du MPP, le parti du chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. Actualité américaine maintenant, l'influent vice-prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est parti ce lundi à destination des États-Unis, où il doit rencontrer le président Donald Trump à l'occasion d'une visite de travail qui commencera jeudi. C'est ce qu'annonce l'agence officielle saoudienne SPA. Le prince de 31 ans, également ministre de la Défense, sera le plus haut responsable du royaume wahhabite à s'entretenir avec le président Trump depuis que celui-ci a succédé en janvier à Barack Obama. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.